êtes toujours à l'écoute de RFI, 16h en temps universel, 18h à Paris, le journal.
Pierre Boudias.
Et à la une, les résultats de la présidentielle gabonaise viennent de tomber. Le président de transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, officiellement élu pour 7 ans. Nous serons à Libreville dans un instant. L'un des derniers hôpitaux de Gaza encore en fonctionnement, endommagé, conséquence d'un bombardement israélien sur l'établissement Al-Ali. Une nouvelle attaque qui aggrave les difficultés d'un système de santé déjà à bout de souffle, vous l'entendrez. La gauche américaine poursuit sa croisade anti-oligarchie. Une grande tournée menée par Bernie Sanders pose ses valises à Salt Lake City. Ce dimanche, le sénateur du Vermont en guerre contre Donald Trump et le poids de l'argent dans la politique américaine. Et puis la mer Caspienne va-t-elle devenir une simple flaque face au réchauffement climatique? Elle pourrait perdre plus de 20 mètres de profondeur d'ici la fin de ce siècle. Une catastrophe pour la biodiversité et les populations locales. Au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, officiellement élu président. Le ministère de l'Intérieur vient de communiquer les chiffres globaux provisoires du scrutin présidentiel de ce samedi. On va tout de suite retrouver notre envoyé spécial à Libreville, François Mazet. Bonjour François.
Bonjour.
Alors selon le ministre Herman Imongo, le chef de la transition a obtenu 90,35% des voix.
Oui, effectivement, ses soutiens lui promettaient un score à la soviétique. Il l'a eu, Brice Clotaire Oligui Nguema, plus de 575 000 voix, 90,35% des voix au total. Jamais en dessous de 93% dans aucune des 9 provinces du pays, à l'exception de la diaspora, où il plafonne, entre guillemets, à 78,87%. Forcément, pour les autres, il ne reste que des miettes. Alain-Claude Bilibinzé est classé deuxième avec tout juste 3% du total et les 6 candidats restants ont tous moins de 1%. Ils ont 8 jours pour saisir la Cour constitutionnelle. Un dernier chiffre qui est important, c'est celui de la participation. Hier, l'estimation était de 87% donnée par le ministère de l'Intérieur. Elle a été revue largement à la baisse à 70,4% par le ministre qui vient donc de clore son point presse alors que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a retrouvé le QG de son mouvement, le Rassemblement des bâtisseurs, pour une fête avec tous ses soutiens.
François Mazet en direct de Libreville. Merci François. Et on rappelle donc que selon les termes de la nouvelle constitution, Brice Clotaire Oligui Nguema est élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois. L'un des derniers hôpitaux de la bande de Gaza encore en fonctionnement, gravement endommagé ce dimanche. L'établissement Al-Ali, situé dans le nord de Gazaville, a été visé par une frappe israélienne. Après un appel à évacuer, l'armée assure avoir visé un centre de commandement du Hamas, accusation rejetée par le mouvement palestinien qui évoque un crime sauvage. Julie Faucon est coordinatrice médicale de Médecins sans frontières à Jérusalem-Est. Les équipes de MSF opèrent dans d'autres hôpitaux du territoire palestinien où la situation ne fait que s'aggraver faute d'équipement et de matériel suffisant. Écoutez-la.
La situation aujourd'hui est à un niveau catastrophique. Le peu de structures de santé qui sont toujours fonctionnelles sont extrêmement difficiles d'accès. Elles sont difficiles d'accès pour les équipes médicales, mais aussi pour les patients. C'est dangereux. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul endroit qui est safe à Gaza. Il y a des ruptures et des manques en médicaments, en traitements, en pansements, en matériel qui sont impensables. Aujourd'hui, pour chaque réponse à un afflux massif de blessés, c'est à peu près 80 transfusions qui sont faites dans les services d'urgence ou dans les blocs opératoires. Et aujourd'hui, les stocks de poches de sang sont extrêmement limités. Plus les structures de santé sont endommagées, plus ça augmente les besoins sur les structures restantes. Voilà, donc c'est aujourd'hui absolument indispensable que des supplies médicaux puissent rentrer à Gaza.
Des propos recueillis par Julien Chavannes et le ministre britannique des Affaires étrangères. David Lamy a appelé dimanche Israël à cesser ses attaques déplorables contre les hôpitaux de Gaza. Ce sont ses mots. Une attaque qui franchit toutes les limites de la décence pour Washington. Un acte barbare selon l'Allemagne. Les condamnations se multiplient après la frappe russe qui a fait au moins 34 morts dans le sud-est de l'Ukraine ce matin. Au moins 80 personnes, dont des enfants, ont également été blessées dans ce bombardement qui a visé le centre de la ville de Soumy. Le président Volodymyr Zelensky appelle la communauté internationale à accentuer sa pression sur Moscou pour parvenir à une trêve. Autre appel ce dimanche, celui de la Chine qui demande aux États-Unis d'annuler complètement leur nouveau droit de douane, désormais touché par des taxes de 145% sur ces produits aux États-Unis. Le gouvernement chinois évoque de mauvaises pratiques. Il demande le retour de Washington au respect mutuel. La Chine applique désormais des tarifs de 125% sur les produits américains et a mis en garde hier contre les conséquences de la guerre commerciale lancée par Donald Trump pour les pays les plus pauvres, mis en garde devant l'Organisation mondiale du commerce. Eux aussi sont en guerre contre l'administration de Donald Trump. Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, et la représentante de New York, Alexandra Ocasio-Cortez, deux figures de l'aile gauche de la politique américaine, actuellement engagées dans une grande tournée contre l'oligarchie. Ils organisent ce dimanche un meeting à Salt Lake City, dans l'ouest du pays. Une nouvelle étape de cette tournée lancée il y a quelques semaines avec l'objectif de mobiliser leurs partisans contre les politiques du président américain, mais également de s'engager contre l'importance de l'argent dans la politique des âmes des États-Unis. Hier, le duo était à Los Angeles devant quelque 36 000 personnes, selon l'organisation. Le plus important meeting de cette tournée, notre correspondant Edouard Maille l'a suivi à distance.
Après les performances de plusieurs artistes comme John Baez et Neil Young, Alexandria Ocasio-Cortez prend la parole. Elle énumère les dérives, à ses yeux, du gouvernement de Donald Trump, expliquant que le pays doit choisir.
Nous pouvons soit avoir des inégalités de richesse extrêmes avec les divisions toxiques et la corruption qui permet à ce système de survivre, ou nous pouvons avoir une économie juste qui garantit un accès à la santé pour tous, pour les classes populaires, ainsi que la démocratie et les libertés qui la soutiennent.
Puis Bernie Sanders entre en scène, fustige à son tour la situation politique du pays dont il tient pour responsable les intérêts des plus riches.
We're living at a moment. Nous vivons à un moment où une poignée de milliardaires contrôle la vie économique et politique de notre pays. Nous vivons à un moment avec un président qui ne comprend pas et ne respecte pas la Constitution des États-Unis.
Le sénateur a également critiqué les démocrates, estimant que trop de responsables du parti sont à la botte des intérêts des milliardaires. Edouard Maille, Dayton dans l'Ohio, RFI.
Et sachez que le président américain est lui en excellente santé cognitive et physique. C'est le bilan présenté par la Maison-Blanche après une visite médicale du chef de l'État américain il y a deux jours. Âgé de 78 ans et plus vieux président jamais élu, Donald Trump est tout à fait apte à exercer ses fonctions selon ses médecins. Lui souffre de graves problèmes de santé depuis un coup de couteau reçu en 2018. Jair Bolsonaro, lourdement opéré ce dimanche, hospitalisé depuis vendredi pour des douleurs à l'abdomen. L'ex-président brésilien est traité pour une occlusion intestinale selon l'hôpital de Brasilia où il est admis, l'une des situations les plus graves depuis l'attentat qu'il avait visé lors de la campagne présidentielle qu'il avait portée au pouvoir. RFI, il est 20h06 à Bakou, la ville azerbaïdjanaise située sur la mer Caspienne. Une mer qui pourrait perdre jusqu'à 21 mètres de profondeur d'ici la fin du siècle, selon une nouvelle étude scientifique publiée cette semaine. En cause, le réchauffement climatique dû aux activités humaines. Les conséquences d'un tel assèchement seraient catastrophiques pour les nombreuses espèces endémiques de la région, mais aussi pour les hommes qui vivent sur ses côtes. Les précisions de Jeanne Richard.
C'est l'augmentation des températures et donc l'évaporation de l'eau, en plus de la baisse des pluies qui entraîne le déclin de la mer Caspienne. En parallèle, les deux plus grandes rivières qui alimentent cette mer enclavée, l'Oural et la Volga, ne compensent pas. Leur débit diminue également. Résultat, le niveau de l'eau pourrait baisser de 21 mètres si le réchauffement climatique continue à s'accélérer, soit une perte de près de 40% de la superficie actuelle de la mer, estiment les scientifiques. Selon eux, rien qu'une baisse de 5 mètres de profondeur mettrait en péril les sites de reproduction des phoques de la Caspienne et les lieux de vie des esturgeons, deux espèces endémiques déjà menacées, et en tout, des centaines d'espèces locales et migratoires seraient affectées. Les chercheurs alertent aussi sur les conséquences humaines et économiques de ce déclin. Des villes portuaires se retrouveraient à plusieurs dizaines de kilomètres du rivage, les échanges maritimes, les industries et les pêcheries deviendraient obsolètes. Les auteurs de l'étude appellent donc à se préparer dès à présent, commencer à diversifier l'économie et adapter les sites naturels protégés.
Oui, cette situation n'est sans doute pas la situation rêvée du monde du futur qui s'expose depuis aujourd'hui à Osaka. C'est le thème choisi pour l'exposition universelle 2025 qui se tient dans la ville japonaise. 160 pays et régions sont représentés à cet événement qui consacre une large place aux technologies d'avenir. Autre curiosité, une structure de 20 km de circonférence et de 2 mètres de haut qui entoure les pavillons, la plus grande structure en bois au monde. RFI, presque 16h10, en temps universel. Marcel. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, Mondial Sport avec Hugo Moissonnier.